goûté comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
C'est bon.
Et on va ramasser les châtaignes.
La châtaigne, autrefois, on disait, c'est le pain du pauvre.
Oui, on faisait la castagnade. Et bien, on se réunissait tous, et on faisait cuire des châtaignes, et on buvait, en mangeant des châtaignes, du vin nouveau. Et puis, on discutait, on se racontait plein d'histoires, c'était merveilleux.
On va les griller?
Ah non, pas cela. Cela, je vais les faire cuire à l'eau. Une petite pincée de sucre, du sel, du porto, on améliore toujours l'ordinaire. Deux feuilles de figue, deux fleurs d'anis, et on va les faire cuire...
Première châtaigne pour moi!
1h30, 2h.
Ah, c'est long!
Il faut les goûter.
Bonjour à toutes et tous, et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Aujourd'hui, on se met des châtaignes, on castagne, et on risque de se retrouver marron. Mais tout va bien, rassurez-vous, amis auditeurs, la châtaigne est aussi pleine de douceur. Le fruit roi des forêts sort du bois en ce dimanche. Nous recevons le plus... castanéifile des chefs français, c'est Claude Brioud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ardéchois pur jus et vous avez fait de la châtaigne le symbole, le totem de votre restaurant et de votre cuisine. Cuisine Brioud, c'est le nom de votre restaurant gastronomique à Nérac-les-Bains, c'est ça?
C'est ça.
On est à 15 km
d'Aubenas,
donc on est en pleine Ardèche, un restaurant gastronomique engagé sur le plan écologique et social. Et vous tenez également un bistrot,
oui,
le bistrot Brioud. Dans le même établissement?
Oui, pour pouvoir ressortir le patrimoine culinaire des cinq générations précédentes.
Et oui, car vous incarnez la sixième génération d'une famille de cuisiniers au fourneau depuis 1884. Tout à fait impressionnant, on adore ce genre de saga familiale dans l'émission. Et vous avez consacré à votre fruit préféré un livre en 2012, Châtaigne, la reine non couronnée de la cuisine, aux éditions Sud-Ouest. On va déguster, grâce à vous, la châtaigne dans tous ses états et tous ses éclats. J'aperçois même, oui, des éclats, des petites chips de châtaigne fraîche.
Qui sont là.
On va les goûter dans un instant.
Voilà.
Ah, carrément. Impressionnant. Ah ouais, c'est carrément des chips.
Ah oui, c'est super fin.
La récolte des châtaignes vient de commencer en Ardèche, où elle bénéficie d'une appellation d'origine protégée. Nous irons faire un tour, grâce à notre reporter Stéphane Combe, en Ardèche, dans les vergers d'un producteur que vous connaissez sans doute. Il est en bio, c'est Michel Grange.
Oui, au nord de l'Ardèche, une superbe exploitation, et puis quelqu'un qui transforme très très bien le fruit aussi.
Et on a d'ailleurs le résultat de ces transformations dans les fauteuils des chroniqueurs en ce dimanche. Arnaud Daguin et l'un de nos chroniqueurs vins, Jérôme Gagnès. Bonjour les copains.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Arnaud, alors?
Un coup de latte aujourd'hui, attention les yeux.
Le coup de lame se fait coup de latte. Peut-être un petit rapport avec Castagnier, la châtaigne.
Faut voir.
Jérôme?
On visite un monument.
Ardéchois?
Ouais.
On est rassuré.
Oui.
Ça se passe dans une bouteille quand même.
Ça se passe dans une bouteille, bah oui, avec moi, oui.
On est encore plus rassuré. Pour les recettes à la châtaigne de notre invité, elles sont nombreuses. Pour toutes nos infos pratiques et pour le podcast de l'émission et de nos chroniques, le chemin est tout tracé. Franceinter.fr. À la page, on va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de s'attaquer à la châtaigne, je voudrais vous faire déguster à l'aveugle, mes amis, une petite surprise gourmande. Alors c'est un pot avec un contenu de couleur marron brillante, vous êtes déjà en train de donner de la cuillère. Alors bon, je vous ai pas fait le coup de « c'est une crème de marron », vous l'avez bien compris. C'est un condiment que vous allez peut-être réussir à identifier. Claude Brioud?
C'est épicé.
Ouais.
J'arrive pas à dire, il y a un petit peu de cannelle dedans. Mais...
bien joué.
Mais j'aime beaucoup le côté piquant. C'est très relevé, ouais.
Alors, on a entendu épices.
Ça ressemble un peu au tikka masala, c'est dans ce registre-là. Il y a un peu de piment.
Registre épicé, un peu de piment.
Il y a du curry,
absolument.
Non? Il n'y a pas du curry?
Il y a en tout cas des épices, je ne vous en donnerai pas toute la liste, mais il y a ce côté tout à fait épicé. Il y a aussi ce côté un peu aigre doux.
Ouais, il n'y aurait pas un peu de vinaigre ou quelque chose?
Bravo, vinaigre de cidre, tout à fait. Et ça donne donc la version artisanale d'une sauce parfois réputée comme
le ketchup.
Un peu de junk food.
Ah oui.
Ah, on n'est pas loin du ketchup avec ses notes aigre douces.
Barbecue. Sauce barbecue.
La sauce barbecue, vous la reconnaissez quand même?
Je sais pas, j'en mange jamais.
Ouais, je sais. À mon avis, votre ami Jérôme Gagnès ne met pas souvent les pieds dans un fast-food.
Ah non, ça non.
Mais
non.
La bonne nouvelle, c'est que c'est effectivement une sauce barbecue, mais vertueuse. Alors, elle a été ainsi nommée parce qu'elle est censée escorter les grillades, comme on le sait, avec ses notes aigres douces. Elle est souvent connotée un peu fast-food, junk food. Et là, on a affaire à quelque chose de très sain. C'est l'invention réussie d'une jeune cuisinière pleine de ressources que notre ami Arnaud Daguin connaît bien, mais vous n'en dites pas plus pour l'instant, Arnaud.
Bon, d'accord.
Nous l'avons rencontré grâce à vous à Paris, et je vous propose de faire sa connaissance.
Je m'appelle Ranois,
Je suis aussi connue sous le nom de l'ogresse, puisque j'ai créé, il y a 2 ans maintenant, une conserverie artisanale qui s'appelle Les Délices de l'ogresse. Et on est situé à la Courneuve, dans le quartier des 4000. On y fabrique des pâtes à tartiner, des confitures, des sauces et des tartinades. Et ce qui nous distingue particulièrement dans ce qu'on fait, c'est l'équilibre des épices et de saveurs un peu juste, qui vient de mon passé de reporter de guerre, en fait, où j'ai pu beaucoup voyager et découvrir un peu partout où je suis allée, que ce soit au fin fond de l'Afghanistan Pachtoun ou en Syrie pendant la Révolution. J'ai pu découvrir beaucoup de saveurs et d'épices inattendues. Alors là, ce que je suis en train de goûter, c'est la sauce barbecue. C'est un produit que j'affectionne particulièrement parce qu'il est un peu vraiment symbolique de toute notre démarche. Tout est bio chez nous, hein, mais pas que, parce qu'on essaye de travailler aussi avec des producteurs locaux. Là, toutes mes tomates, elles ont poussé il y a 100 de kilomètres de l'atelier. Elles sont fraîches, à maturité. C'est avec ça qu'on fait tous nos produits. C'est toujours à base de fruits et légumes frais. Et dans cette sauce barbecue, ben, on retrouve tout le plaisir un peu junk food, aigre doux, parfumé de la sauce barbecue. Mais là, on est dans un produit qui est sain, non seulement écologiquement, mais aussi parce qu'on est à 80% de légumes contre 10 ou 15 dans une sauce barbecue industrielle. Toute l'idée, c'était de dire que sans arôme artificiel, qu'avec une richesse des épices, une complexité de l'équilibre entre tous les goûts, ben on peut réussir à retrouver le plaisir de la sauce barbecue, mais dans un produit sain.
Validée, cette sauce barbecue signée Ranois Stefan, Les Délices de l'ogresse.
Et comment ?
Ah oui, totalement.
Pas trop sucré, comme vous dites.
Il y a beaucoup d'acidité. Un beau piment, non, c'est formidable, ça.
Et je tiens le pot à la main. Attention, aucun gros mot sur l'étiquette. Tomate fraîche, oignon, vinaigre de cidre, sucre complet, mais il n'y en a pas trop, comme vous le dites. Ail, sel marin, gingembre, cumin, c'est peut-être ce qui donnait ce côté un peu indien. Pimenton, poivre noir et thym. Que des produits bio et issus du commerce équitable pour une sauce barbecue, ben, qu'on a tous validée, sans conservateur, évidemment sans arôme artificiel. Et c'est Arnaud Daguin, je le disais, qui nous a mis sur la voie de cette artisane en avril dernier. Pendant le confinement, vous avez découvert ces produits.
Ouais, elle est formidable. Et alors, je vous conseille une de ces pâtes à tartiner, là, pour remplacer l'autre qu'on n'aime pas, avec du bon gras, des noisettes de folie et un peu de chocolat au lait. C'est vraiment, mais extraordinairement bon.
Génial. Voilà. Et vous me demandiez le prix à l'oreille, ouais. Cher Jérôme Gagnès, de cette sauce barbecue. Eh bien, c'est 5,50 €. Un gros pot dont j'ai pas tout à fait la contenance, mais en tout cas, si, 200 grammes. 5,50 €, un peu plus cher, certes, que des sauces industrielles, mais tellement meilleur. Tous les produits de Ranois Stefan, des Délices de l'ogresse et ses points de vente, sa boutique en ligne sont à retrouver sur franceinter.fr. À la page, on va déguster. Cette émission est réalisée par Laurent Thomas avec à la technique Vincent Godard. Margot Page à la préparation et Djoubaka, notre programmateur musical, a choisi Drôle d'histoire de Junior, Chaud les marrons, sur France Inter.
C'est toujours qu'un faux départ. Thank you.
on se laisse sur le trottoir, en pleine ivresse. Si on s'accorde quelque part, c'est de justesse.
Le singe et le chat. Une fable où le singe s'appelle Bertrand et le chat s'appelle Raton. Le singe et le chat, donc. Un jour, au coin du feu, nos deux maîtres fripons regardaient rôtir des marrons. Les escroquer était une très bonne affaire. Nos galants y voyaient double profit à faire. Leur bien, premièrement, et puis le mal d'autrui. Bertrand dit à Raton, « Frère, il faut aujourd'hui que tu fasses un coup de maître. Tire-moi ces marrons. » Si Dieu m'avait fait naître propre à tirer marron du feu, certes marron verrait beau jeu. Aussitôt fait que dit, Raton avec sa patte, d'une manière délicate, écarte un peu la cendre et retire les doigts, puis les reporte à plusieurs fois, tire marron, puis deux, et puis trois en escroque. Et cependant, Bertrand les croque. Une servante vient, adieu mes gens. Raton n'était pas content, se dit-on. Aussi ne le sont pas la plupart de ces princes qui, flattés d'un pareil emploi, vont s'échauder en des provinces pour le profit de quelques rois.
Merci Arnaud Daguin pour la lecture du singe et le chat, une fable signée
La Fontaine.
Bravo Jean de La Fontaine qui a le mérite quand même de mieux nous faire comprendre dès 1640 cette expression très connue de la langue française, tirer les marrons du feu, soit profiter d'une situation... Puisqu'effectivement, le chat Raton retire du feu au profit du singe.
On pourrait dire que le singe s'appelle capital et que le chat s'appelle travail.
C'est ça.
Et on a une image de notre société actuelle.
C'est ça. Et Claude Brioud, tirer les marrons du feu illustre quand même le côté assez précieux, nécessaire, presque vital du marron. Ou de la châtaigne.
Ah oui, le marron, enfin surtout le marron grillé. Alors c'est un souvenir pour les Ardéchois parce que c'est le moment le plus convivial de l'année peut-être. C'est la veillée. Voilà, quand on se réunit, qu'on fait griller les marrons, on boit justement le vin nouveau parce que c'est fin novembre et que le vin chez nous était à peu près fait à cette époque-là, enfin pas toujours, mais pour les gens c'est un souvenir extraordinaire. Et puis c'est tellement bon.
Eh ben on va parler justement de marron chaud et de marron grillé, mais juste avant, j'aimerais qu'on écarte un quiproquo. Dès le début de cette émission, on veut la différence entre châtaigne et marron, c'est assez ambigu. Parfois, c'est le même fruit botaniquement, parfois ça l'est pas.
Alors, le marron que vous retrouvez dans la confiture et le marron glacé, c'est une châtaigne, qui est normalement est un les plus gros fruits et les fruits qui sont non cloisonnés.
C'est ça.
Et puis ce qu'on appelle le marron, qui est le fruit du marron d'Inde, alors lui n'est pas du tout comestible.
Il est même carrément toxique.
Pour les se soigner un petit peu, on en utilise, mais sinon, non, ça n'a aucun intérêt.
Donc surtout ne pas confondre châtaigne et marron d'Inde, qui est le fruit du marronnier d'Inde, autrement dit, un arbre qu'on a beaucoup côtoyé dans les cours de récréation, c'est ça.
C'est ça, oui.
On faisait même des batailles de marron.
Oui, oui.
En revanche, on ne le mange pas celui-ci, même s'il a un faux air de famille avec la châtaigne.
De loin quand même.
La châtaigne a quand même cette petite queue velue.
Oui.
Que n'a pas le marron d'Inde.
On a une petite toupée, qu'on appelle le toupet.
Elle est très fripée, elle est veinée, enfin elle est.
Elle est un peu plus pointue, parce que le marron du marronnier d'Inde est un peu plus rond. C'est une sorte de petite boulette, là.
Exactement.
Alors que la châtaigne est un beau fruit.
Il y a la bogue pour les reconnaître aussi.
En plus, oui.
Voilà. Et il y a la bogue pour les reconnaître, absolument, sachant que la bogue de la châtaigne pique vraiment.
Voilà.
Ah oui.
C'est un vrai.
La serrer dans la main, c'est
un vrai petit oursin des forêts. Et puis enfin, le marron, culinairement parlant, c'est effectivement une châtaigne. Quand on parle de marron glacé, de crème de marron, ou encore de marron grillé, venons-y justement. Quand on a de belles châtaignes, la saison débute, ça tombe bien. Comment on fait? Comment on prépare? Comment s'opère ce protocole qui consiste à griller des marrons? Ça peut se faire à la cheminée, mais aussi au four.
Au four, oui. Les deux sont tout à fait envisageables. Le plus facile, c'est au four, forcément, parce qu'à la maison, on a tous un four. Donc, ce qu'il faut faire, c'est... On a ce qu'on appelle, nous, le cul, la petite partie qui est un peu plus claire. Mm-hmm. Avec un couteau, on en enlève un petit bout. On met ça dans une plaque bien à plat. On les met au four 200 degrés. Mm-hmm. Alors, moi, je les aime bien grillés. quand ils croustillent un peu.
Et quand ils sont craquants, ils commencent un peu à noircir.
Ils sont bien dorés, on va dire. Mm-hmm. Et ils sont prêts, de toute façon, c'est facile, quand on les prend dans ses mains, on les frotte, et il ne reste plus que le fruit à l'intérieur. Ouais. Et là, c'est cuit.
Donc, ils commencent légèrement à caraméliser. Oui.
Moi, c'est comme ça que je les aime. Parce qu'on a ce petit côté à la fois croquant, on obtient cette saveur un peu fumée du grillé qui est extraordinaire. Ouais. Qu'on retrouve alors à la cheminée, au feu, c'est encore meilleur, parce que justement, on a un peu le fumé. Et moi, qui suis ardéchois depuis longtemps, ça me rappelle la farine de châtaigne qu'on trouvait avant, qui était faite au séchoir traditionnel, ce qu'on appelait le claydou. On mettait du bois qu'on faisait fumer, en fait. Et on avait ce côté très fumé, très marqué, qu'on retrouve plus maintenant dans les farines.
Oui. Alors moi qui ai des origines corses, oui. On retrouve dans la farine de châtaigne qui bénéficie d'ailleurs d'une appellation d'origine protégée, on retrouve précisément cette dimension fumée, car la farine, les fruits étaient séchés, et l'est encore aujourd'hui, et bien dans des endroits précisément où il y a encore un four.
On met du bois.
Du bois de châtaignier souvent.
Voilà. Oui, et alors que maintenant, souvent, les faiseurs, c'est plus un déshydrateur qu'un fumoir en fait.
Vous êtes ardéchois, on ne compte plus les générations, vous êtes vraiment enraciné, ancré dans ce territoire depuis très longtemps, Claude Brioun. L'histoire d'amour entre l'Ardèche et la châtaigne, ça remonte à quand ?
Alors très longtemps, puisqu'on a retrouvé une châtaigne fossilisée qui a 8,5 millions d'années, qui serait une des plus anciennes traces de châtaigne, voilà, qui a été retrouvée par Privat et qu'on peut voir au Muséum d'Histoire Naturelle de l'Ardèche, qui est à Balazuc.
D'accord, donc on a toujours cultivé et consommé des châtaignes en Ardèche.
Alors on a toujours consommé, la culture date du 13e, 14e siècle avec l'avènement du greffage en fait, où on a pu sélectionner les meilleures variétés. C'est ça. Et l'apogée c'est 1870 où on est arrivé à 40 000 tonnes de châtaignes produites en Ardèche.
Et on sait à quel point la châtaigne a joué un rôle nourricier essentiel en Ardèche, dans une région qui était plutôt pauvre.
Oui, qui est déjà difficile parce qu'on n'a pas des grandes plaines. Et en plus, le châtaignier est un arbre qui peut se planter dans des endroits où on ne peut rien faire d'autre. C'est-à-dire qu'on peut le planter dans les pentes, à Lubac, donc du côté ombré. C'est un arbre qui n'est pas très très exigeant.
Mais il n'est pas emmerdant.
Non, pas du tout. Et puis on peut le conserver longtemps. On a la farine, on a les fruits secs.
Et puis les châtaigniers, ça devient vieux. Hein, au Pays Basque, j'en avais un chez moi qui avait 400 ans.
Ah oui, mais oui, c'est un très vieil arbre.
Il y a même, paraît-il, près du lac Léman, un châtaignier qui serait carrément millénaire.
Ah oui. Ah oui.
C'est un arbre qui bénéficie d'une longévité exceptionnelle. La saison de la châtaigne vient de démarrer en Ardèche.
15 octobre, 15 novembre, c'est le plein cœur de la saison.
Donc là, on est vraiment au début.
Oui.
Je vous propose d'aller faire un tour en Ardèche, grande terre d'accueil de la châtaigne. Notre reporter Stéphane Combe est parti à la rencontre de Michel Grange. Il est castanéiculteur bio à Lamastre. Alors Lamastre, c'est en plein cœur du département,
oui, c'est
plutôt nord.
Mmh.
Autant dire qu'il entretient une relation intime avec ce fruit. Je vous propose une promenade d'automne dans ses vergers.
Regardez-moi ces filets, là, ces beaux filets, ils sont remplis de bogues, de châtaignes. Et puis on est sur une châtaignerie très très ancienne, des arbres qui sont pluricentenaires. On a des arbres qui ont 300-400 ans. Pour les plus anciens, ils ont vu passer des générations de producteurs qui chacun à leur tour y a apporté une petite touche dans la sélection des meilleures variétés, celles qui sont les plus gustatives, celles qui sont les plus productives.
Michel Grange, votre production de châtaignes, c'est à peu près quelle quantité chaque année ?
C'est beaucoup moins qu'avant, hein, puisqu'en France, on produit en ce moment entre 10 et 12 000 tonnes de châtaignes, et la production ardéchoise est montée jusqu'à 60 000 tonnes. Il faut savoir qu'on importe autant de châtaignes qu'on en produit. La production de châtaignes est fortement déficitaire en France. On importe beaucoup de châtaignes des pays méditerranéens. À un moment donné, la châtaigne avait servi les populations rurales et pauvres, donc le niveau de vie a augmenté, les gens se sont détournés un petit peu de ce fruit. Quand la transformation absorbait des volumes plus conséquents, ils sont souvent allés chercher donc à l'étranger, ce qui fait que le développement s'est fait aussi dans ces pays-là, au détriment de la production ardéchoise. Et depuis que nous avons fait une AOP, donc on a recentralisé la production sur l'Ardèche, et maintenant donc on développe fortement cette activité par la rénovation, la reconquête de vergers abandonnés, mais aussi par la rénovation et de nouvelles plantations. Tout ce que nous produisons, nous le transformons. Donc une partie sont séchées pour faire la farine, une partie est épluchée en frais donc pour faire la purée de châtaigne, des soupes de châtaigne, des crèmes de châtaigne, confitures, liqueurs, sirop, châtaigne confite, châtaigne glacée, châtaigne entière. Il y a plein de possibilités. Et puis de la pâtisserie aussi, il y a plein de possibilités avec la châtaigne.
Vous, qu'est-ce que vous préférez ?
Ah, j'aime bien les châtaignes fraîches, cuites à l'eau, épluchées avec une salade verte, tout simplement. Attendez, je vais en prendre une. Voilà,
Alors, vous avez ouvert la bogue, hein, ce qui ressemble quand même à un oursin, et à l'intérieur, il y a...
À l'intérieur, on trouve trois fruits. Donc, les deux sur le côté sont légèrement bombés, et le fruit du milieu est plus aplati. on prend tous les fruits qui sont bien remplis, ceux qui ont été bien pollinisés. Donc on les voit bien brillants, bien lustrés, comme ça.
Est-ce que c'est un fruit à coque?
On ne peut pas appeler ça un fruit à coque, hein, comme les amandes, les noisettes et les noix, bien sûr. C'est un fruit frais, la châtaigne. C'est un fruit qui contient 50% d'humidité, donc d'eau. Il faut le conserver comme tel. Je veux dire, c'est comme aussi fragile qu'une salade, on va dire presque. C'est un fruit fragile, donc quand on le récolte comme ça, il faut toujours faire attention à bien le conserver au froid, mais jamais dans des emballages plastiques fermés. C'est un fruit qu'il faut qu'il respire. Donc le châtaignier s'acclimate bien dans les régions pauvres. Hein. Nous, on a un sol ici très acide, des sols légers, sableux. Et le châtaignier n'aime pas les terres asphyxiantes qui contiennent beaucoup d'argile.
Ce qui est étonnant, c'est qu'au sol, c'est un tapis de bogue. Qu'est-ce que vous en faites? Vous la laissez sur le sol?
Oui, la bogue reste au champ. Donc on ne ramasse que les châtaignes. Et cette bogue, elle a une utilisation bien précise, hein, puisqu'elle, entre le fait qu'elle nous apporte de la matière organique, elle enrichit le sol, mais aussi de sa structure épineuse qui se fixe comme ça sur le sol. Elle permet de retenir l'eau quand on a des épisodes sévères, des épisodes violents de pluie, donc la pluie pénètre plus rapidement et plus facilement dans le sol.
Dans la châtaigneraie de Michel Grange, qui avec sa famille cultive et transforme près de 65 variétés de châtaignes, et ce depuis 7 générations, et dans un mode agroécologique qui plairait beaucoup à Arnaud Daguin, écoutez un peu, élevage de moutons pour l'entretien de la châtaigneraie, apiculture pour favoriser la pollinisation par les abeilles, quelques porcs pour valoriser les déchets d'épluchage et de transformation des fruits, et même une petite scierie pour l'auto-construction des bâtiments agricoles en bois de...
Châtaignier, j'imagine.
Et notre reporter Stéphane Combe, très sympa, grand seigneur, nous a apporté quelques cadeaux confectionnés par Michel Grange. Moi, j'ai une crème de châtaigne nature bio.
Ouais, moi j'ai une crème de châtaigne au rhum dont j'aurais préféré qu'elle soit à l'armagnac, mais je lui en veux pas.
Moi j'ai rien du tout, moi. Moi j'ai rien du tout, moi j'ai du monde.
Toi t'es puni.
On va aller se plaindre à Stéphane Combe, je suis sûr qu'il a des petits cadeaux pour vous. Est-ce que c'est votre, ce n'est pas votre fournisseur en châtaigne, Michel Grange?
Alors en partie, j'utilise un peu sa confiture, mais c'est vrai que moi j'ai un voisin qui est à 5 km de chez moi, donc voilà, je me sers chez lui.
Citez-le.
David Gontier, qui a la pourrette d'ailleurs, c'est une des variétés que je vous ai amené pour vous montrer les quelques variétés.
Justement, parce qu'il faut imaginer pour nos auditeurs qu'il y a quand même des remplies de fruits, de châtaignes qui ont été, bien entendu, alors débarrassées de leur bogue, mais pas épluchées, elles ont encore leur peau. En revanche, elles ont des gabarits et des formes tout à fait différents.
Alors, c'est pour qu'on les reconnaisse, elles sont toutes différentes en fonction des variétés. Je vous ai amené celles-ci qui sont les plus grosses, parce que c'est celles que vous allez trouver en premier, généralement. Parce que
elles sont précoces.
C'est une nouvelle variété qui a été obtenue par l'INRA, qui s'appelle Bouche de Bétiza, qui est un hybride. Et alors, qui sont très très belles, parce qu'elles sont très grosses. Je dirais que gustativement, c'est pas trop mal, mais voilà.
D'accord,
c'est
que de la gueule.
C'est comme souvent. Ouais. Voilà. C'est comme souvent avec l'INRA. C'est beau, mais c'est pas très bon.
Vous êtes un peu sévère.
C'est gros, l'INRA ça correspond aussi au standard. Voilà. Ouais, mais finalement, bah c'est pas si bon.
On se demande pourquoi ils cherchent des trucs, ces mecs-là, franchement.
Non, là, vous exagérez. On fera un débat sur l'INRA un autre jour. D'autres variétés de châtaignes?
Des bouches rouges. Alors celles-ci sont un peu petites, je suis désolé, mais normalement c'est une variété qui est très grosse. Une des variétés qu'on utilise pour faire le marron glacé avec la sardone, qui sont les deux variétés qui peuvent donner des très gros fruits. Celles-ci sont pas très gros, mais bon voilà. Et on les reconnaît parce qu'elles sont un peu plus rouges au niveau du teint.
D'accord.
Et puis là, je vous amène une variété qui est très locale puisqu'elle se trouve dans trois vallées, la vallée de l'Ardèche, la vallée du Lignon et puis la vallée qui est sur l'Argentière. Donc ce sont des pourrettes, des toutes petites châtaignes. Alors c'est mes préférées parce que ma grand-mère elle en faisait la confiture.
Mais oui.
Voilà.
Et moi, je m'en épluche une avec mon canif.
Voilà.
Parce que j'ai une passion pour la châtaigne crue.
Ah, oui. C'est très très bon, la châtaigne crue.
Très très bon. Moi, j'aime beaucoup dans la châtaigne crue, c'est qu'on a une petite amertume toujours très intéressante.
Ouais, c'est l'éthanol de notre ami Marc-André Selosse, donc il en parle dans son livre.
Absolument.
Et effectivement, j'imagine qu'il y a des variétés qui sont plus ou moins tanniques, qui ont plus ou moins d'amertume et de...
Bah oui, après, les variétés qui ont été sélectionnées ont quand même été sélectionnées par les anciens pour être douces. Ils aimaient ça, la douceur.
Ils sont pas fous, quand même.
Non, ils sont pas fous. Mais c'est vrai que, par exemple, ma grand-mère, ça, elle les épluchait pour les cochons. Hein.
Ah ouais.
Ouais. Donc je vous dis pas, quand il faut les éplucher, elle va hyper vite. Ouais.
Alors, on a dans nos assiettes également, preuve que la châtaigne peut se décliner de toutes les façons et notamment en dessert, un chou châtaigne orange à base de crème de marron.
Oui.
Alors déjà, avant de déguster ce chou, il y a un petit craquelin, c'est vraiment de la pâte à chou.
Ça y est, il est avalé, moi, le chou.
Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé?
C'est très très bon.
C'est très très bon.
Je confirme.
Vous ressentez la crème de marron?
Oui, bien sûr que oui. Elle est d'une douceur et d'une suavité. C'est une texture très sensuelle en bouche.
Vous voulez la recette, Jérôme Gagnez?
J'aimerais bien, oui.
Il suffit de la demander.
Oui, alors allez, Claude, on veut bien la recette.
Crème de châtaigne. Attendez, ça n'est jamais qu'une confiture de châtaigne.
C'est une confiture. Alors, un peu plus longue à faire qu'une vraie confiture, parce qu'il faut d'abord éplucher la châtaigne. La première et la deuxième peau. Ensuite, il faut cuire ces châtaignes. Il les faut bien cuites. Parce qu'après, on va les mouliner avec le moulin à purée pour faire une purée.
On les cuit dans l'eau.
Ah oui, oui. Traditionnellement, on épluche la première peau à la main et la deuxième peau, on blanchit simplement ces châtaignes et on les épluche. Et puis après, on les remet à cuire. Et une fois qu'on a fait cette purée, pour un kilo de purée de châtaigne, alors nous, on mettait 800 grammes de sucre. On fait un sirop avec 200 ou 300 grammes d'eau. Quand le sirop est à ébullition, on verse la purée de châtaigne. Ouais. Et là, on remet. Suivant les maisons et les habitudes, on la faisait plus ou moins cuire. Donc, elle va être un peu plus ou moins épaisse. Moi, je l'aime un petit peu moins cuite, donc quand elle est encore sur cette couleur donc, un peu beige.
On est bien d'accord que 200 grammes d'eau ou 300 grammes d'eau, c'est pour 800 grammes de sucre.
Oui, c'est pour faire le sirop.
Ah ouais.
Sachant que la recette de votre crème de marron à faire à la maison, c'est ça qui est intéressant. On n'a pas, parfois, on peut éviter de l'acheter en pot toute faite. Elle est, cette recette, sur franceinter.fr à la page, on va déguster.
Moi, je le dis souvent aux gens, quand vous achetez un kilo de confiture de châtaigne, imaginez-vous que vous avez 580 grammes de sucre dans le pot. Donc, quand vous faites une recette, eh ben, il faut enlever tout le sucre à l'extérieur. Dans le petit chou, là, la crème pâtissière, on met un tout petit peu de sucre pour blanchir l'œuf parce qu'on est obligé. Là où on en aurait mis 200 grammes, on en a mis 50 grammes.
Et on est bien d'accord que vous mettez également de la vanille.
Alors, moi, je mets de la vanille, oui.
D'accord.
Un gousse qu'on fait infuser dans le sirop. Voilà.
Très bien. Alors, on a ce chou. On va pas redétailler, évidemment, la recette de la pâte à chou, d'autant qu'on en a eu une superbe démonstration dimanche dernier avec notre libraire gourmande Déborah Dupont. La recette est aussi sur franceinter.fr à la page, on va déguster. Mais comment intervient cette note fruitée d'orange dans cette recette magnifique?
Alors moi, souvent, ce que j'aime, c'est la châtaigne. J'aime l'associer à un autre fruit pour lui apporter quelque chose qui va l'acidifier un peu. Alors, en saison, châtaigne-framboise, je trouve ça super.
Ah oui.
Et alors, pas besoin de les tripoter les framboises, on les met entières dans le chou à la châtaigne.
Génial.
Et voilà. Et là, en ce moment, les oranges, parce qu'on a aussi une grande tradition sur Aubenas, donc les confiseurs, après la saison de la châtaigne, font de l'orange confite. Du coup, on se retrouve avec des fruits qui ont plus d'écorce. Donc, on va les récupérer, on presse, on fait du jus et on fait des sorbets. Là, j'ai fait des suprêmes qu'on fait un petit peu avec un petit peu de fleurs de cannelier, du sucre roux et des amandes.
Voilà. Quel dessert, c'est absolument splendide. Ouais. Je suis pas tout à fait sûr que Jérôme Guéniez arrive à trouver l'accord dessert-vin. Bah, c'est ce qu'on va voir avec lui.
On va déguster sur France Inter.
Vous êtes bien embêté, Jérôme.
Alors là, pour le coup, oui, avec la crème de avec la crème de marron, la confiture de châtaigne.
On va dire
là,
qu'il y a une proximité géographique.
Il y a une vraie proximité géographique, ça, c'est indéniable. Donc, je vous ai dit qu'on allait visiter un monument. Il est bon parfois de revenir aux sources et il est bon parfois de retourner faire un petit coucou à ceux qui nous ont émerveillés de longues années auparavant et qui sont aussi dans les pionniers d'un certain style de vin. Vin qui m'est souvent arrivé de critiquer pour ses dérives et ses excès, à savoir le vin nature. Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un domaine qui est un domaine que j'ai découvert quand j'ai commencé à goûter du vin. C'était effectivement à cette époque-là. Il y a pas si longtemps que ça, il y a 20 ans.
Il y a 20 ans,
ouais. Il y a un petit moment maintenant. C'est vrai. et donc c'est un domaine dont j'ai beaucoup aimé les vins parce que il y avait une précision, une intensité et un plaisir de fruits dans ces vins qui m'étaient jusque-là presque inconnus ou en tout cas pas sous cette forme-là. Et donc, j'ai été assez vite fasciné par ces vins. Ces vins, vous le disiez, Claude, ils sont pas faciles à trouver. C'est un peu le seul point noir. Ces vins sont d'un domaine qui s'appelle le domaine de Hervé et Béatrice Souhaut.
Évidemment.
En Ardèche. Très rapidement, l'histoire, c'est que Béatrice et Hervé sont parisiens. Ils descendent à Lyon quand Béatrice trouve un travail dans le mécénat culturel à Lyon. Et là, ils y rencontrent un certain Philippe Pacalet.
Eh oui.
Qui est cette grande figure bourguignonne qui fait des vins absolument remarquables, qui à l'époque était balbutiant dans le vin, je crois, me souvenir. Mais ce bon Philippe Pacalet leur présente notamment un certain Marcel L. Du Beaujolais,
le fameux
Marcel
Lapierre.
Lapierre.
Et grand-papa du vin nature, pour le
voilà,
coup.
Voilà, sous la férule de Jules Chauvet, de Jacques Néoport, il ne faut pas oublier les vrais papas. Hein, et ils veulent se lancer, Hervé et Béatrice, ils veulent faire du vin. Et donc, grâce à Marcel Lapierre, Hervé va aller se former chez Dard et Ribaud, qui sont aussi des figures...
À Saint-Joseph.
À Saint-Joseph notamment. Et en Crozes-Hermitage, tout à fait, et en Hermitage, qui sont des figures aussi du vin nature. Il a eu des très, 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 très bons papas, ce monsieur. Il a eu des très bons professeurs, des gens qui font des vins qui ne sont pas de traviole, des vins qui ne sont pas complètement tordus.
Ce qui est souvent le défaut que l'on reproche au vin nature.
Ça a été beaucoup ce défaut-là, ça l'est beaucoup moins maintenant. maintenant, les choses se sont bien professionnalisées, mais ça a été, alors à l'époque, au début des années 2000, je me souviens avoir goûté des vins qui étaient sacrément tordus, et où une multitude de défauts étaient en fait le goût de terroir. Bah, ce goût de terroir-là, je le leur laisse bien. Et donc, je me suis dit, bah tiens, on est en Ardèche, on ne parle plus tellement d'Hervé Souhaut. Dans le milieu du vin, évidemment, ils sont très connus. Dans le milieu du vin nature, ils sont quasi déifiés. Alors, je voulais faire connaître à nos auditeurs ce vin. Goûtez-le. Dites-moi ce que vous en pensez, Claude, Arnaud et François-Régis. Je vous.
C'est splendide, un fruit pur. Juteux.
J'ai fini, moi. Voilà.
Extraordinaire.
Un petit coup de soif.
Vraiment un vin de. Mais on est davantage sur une infusion avec une matière délicate. On n'est pas très extrait.
Mais non.
Beaucoup de finesse.
Il y a beaucoup de délicatesse. Oui, il y a beaucoup de finesse.
Il y a une charpente quand même, elle y est.
Oui, enfin, bien
a,
sûr.
Oui, elle est, et c'est solide, enfin, c'est pas du tout évanescent.
Pas du tout évanescent. Au contraire, il y a une belle intensité, il y a une belle longueur. Nous sommes en train de déguster la Souterone.
Ah, Gamay.
2019, exactement. Le pur Gamay d'Ardèche, d'Hervé et Béatrice Souhaut. Il y en a d'autres qui font des Gamay d'Ardèche, c'est pas toujours aussi réussi. Je vais vous préciser, mais extrêmement rapidement et de façon très succincte, pour faire du vin rouge normal, on va dire, on égrappe les raisins, donc on sépare la baie de la rafle, on écrase un peu tout ça dans la cuve, les peaux macèrent dans le jus, ça fait du vin rouge, et roule ma poule pour la suite. Pour la macération carbonique ou semi-carbonique, on met la grappe entière, on ne touche plus à la grappe, on ferme la cuve. Avec le poids, il y a un tout petit peu de jus qui s'échappe au fond de la cuve. Ce jus va commencer un tout petit peu à fermenter, dégager du gaz carbonique. On aura éventuellement saturé la cuve en gaz carbonique. Donc plus d'oxygène, plus de fermentation. Et il y a une réaction enzymatique intracellulaire à l'intérieur de chaque baie qui va se faire, qui crée 0,1 degré d'alcool à peine, mais qui va transformer chimiquement un peu ce grain de raisin et qui va apporter ces arômes de fruits très intenses. Voilà, en gros, pour la carbo ou la semi-carbo. C'est comme ça que sont faits les vins du domaine Hervé et Béatrice Souhaut. Et on a donc ce Gamay dans un millésime 2019, qui est un millésime riche. On est à 400 mètres d'altitude, on garde donc de la fraîcheur. Ce sont des vins d'avenir, parce que là, on a un vin qui est acidulé, qui est frais. Le fruit n'est pas cuit. On a une texture d'un soyeux. Ça rejoint un peu la sensualité de la texture de la confiture de la crème de marron de Claude tout à l'heure. Ça s'accorde pas forcément très bien, parce que le sucre, c'est un peu compliqué avec un Gamay comme celui-là. Mais on a cette texture très soyeuse. Et ça fait un vin qui est coulant, qui est élégant, qui est long, avec une acidité rafraîchissante. Tous les vins sont disponibles chez les cavistes. Vous avez sur le site, la page de l'émission, la liste des cavistes en France.
Autour de quel prix pour la cuvée, la Souterone d'Hervé Souhaut, un pur Gamay?
On est aux alentours de 20-22 euros.
C'est ça.
Donc c'est un certain prix pour un Gamay d'Ardèche. C'est 40 hecto à l'hectare, c'est pas 70. Et c'est un très très joli vin. Si vous le pouvez, goûter ce vin, vous aurez une autre idée du Gamay d'Ardèche.
Et peut-être aussi une autre idée du vin nature, même si maintenant on ne compte plus évidemment les vins nature qui sont des vins de haute précision. C'est le cas des cuvées d'Hervé Souhaut.
C'est un vin nature de haute précision.
Merci beaucoup de nous rafraîchir la mémoire et les palais, cher Jérôme Gagnès. Dans un instant, on va continuer à évoquer des recettes et des trucs avec notre invité Claude Brioud, cuisinier quand même en Ardèche depuis combien de temps?
Ben moi, je suis depuis longtemps.
Depuis longtemps.
Depuis moi, je vais dire depuis l'âge de 14 ans.
Vous êtes tombé dans la marmite.
Ben oui.
Absolument. Et vous tenez un restaurant fort apprécié dans la région. On retrouvera aussi évidemment le coup de l'âme de notre ami Arnaud Daguin. Get free tonight. Yeah. Now the C'était Chocolate Samurai. Il a une patate d'enfer, Fantastic Negrito, figurez-vous, un bluesman from Auckland. On est dans la baie de San Francisco. Et Fantastic Negrito, je vois que vous avez bien dansé quand même, Arnaud Daguin. Il vient d'entrer dans la playlist de France Inter. Pas mal de questions se bousculent sur le bouton intervenir depuis l'appli mobile de France Inter et notre mail onvadéguster@radiofrance.com. Il y en a notamment une sur, une question marron d'Asie, marron d'Ardèche.
Comme tout essence d'arbre, ça voyage. Hein. Donc, on a eu des arrivées venant d'Asie. Mm-hmm. Je me souviens qu'au Pays Basque, il y a toute une série de châtaigniers qu'on appelait les Japonais. C'est rentré dans le patrimoine. Donc, et en fait, ça fait de très beaux marrons, de très grosses châtaignes. Et apparemment, ça serait une essence qu'on aurait importée pour remplacer ceux qui avaient été touchés par...
On peut parler de différentes maladies, voilà. Oui, parce que justement, ces maladies ont été importées d'Asie, celles qui ont touché nos châtaigniers. Et donc, en Europe, on a Castanea sativa, donc notre châtaignier à nous. Mm-hmm. Et le châtaignier qui vient de Chine et du Japon, qui est un peu plus petit, avec des feuilles un petit peu plus petites, qui s'appelle Castanea crenata, dont on se sert maintenant pour faire les hybrides, les fameux hybrides bouche de bétisa, qui est le premier, le plus horrible, qui a été la M15.
Mm-hmm. Encore un truc de l'INRA, monsieur Gagné.
Non, je sais pas. Ceci dit, ce sont des arbres qui ont un intérêt, c'est qu'ils ne sont pas sensibles aux mêmes maladies que notre châtaignier.
Eh bien justement, je vous propose de retourner en Ardèche, dans les vergers du producteur bio Michel Grange. Il est aidé dans la récolte des châtaignes par le maraîcher bio Bastien Vallon.
Et ramassez bien les plus belles, hein, surtout.
On ramasse les châtaignes qui, du coup, sont tombées naturellement au sol.
C'est-à-dire que vous n'avez pas secoué l'arbre ?
Non, le châtaignier, dès qu'il avait maturité, la boque va s'ouvrir et va laisser tomber les châtaignes au sol. On part systématiquement du bas de la pente, vu que les châtaignes vont tomber au sol, donc vont rouler un petit peu vers le bas. Et ensuite, en remontant, ça nous permet de faciliter la récolte au niveau de notre dos, et aussi pour éviter d'en oublier. Le 11 octobre, c'est le début du gros de la récolte. On a commencé il y a déjà à peu près une semaine à ramasser les premières, les plus précoces. Ensuite, ça va s'étaler encore sur quelques semaines pour se terminer environ autour du 5 novembre pour les toutes dernières. On va ramasser en moyenne environ 100 kg de châtaignes par arbre. C'est un arbre qui est bien entretenu. Après, certains arbres vont nous donner beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. Surtout avec des arbres de ces âges-là.
Ça, c'est un fruit, parce que là, je vois vous récolter à genoux ces châtaignes. C'est un fruit que vous appréciez ?
Beaucoup, parce qu'en ramassant, on est quand même gourmand. Ouais.
Alors, vous enlevez vos gros gants, hein, voilà, qui vous protègent les mains de ces bogues épineuses qui font vraiment mal. Hop, un opinel. Alors, comment vous faites là ?
On enlève la première peau, la plus épaisse. De façon à libérer la deuxième peau dessous.
Vous épluchez en fait la châtaigne.
Voilà, c'est ça. Ouais. Puis après, en frottant un peu avec la lame du couteau, on arrive à enlever la deuxième peau. Ça nous rajoute un petit peu des sucres lents pour se tenir en forme pendant toute la journée. C'est sûr que c'est bien meilleur cuit. Ça concentre les sucres. Vu que dans la châtaigne, le fruit va contenir beaucoup de sucres lents, sous forme d'amidon et autres, la cuisson permet de les transformer en sucre rapide et donc d'avoir ce côté sucré que l'on n'a pas en mangeant cru, comme ça directement.
Alors toutes ces châtaignes qui sont par terre, il y en a des dizaines de milliers, hein, j'imagine.
Ah ouais, des millions, oui.
Des millions, hein, même. J'imagine, c'est une production bio, la châtaigne.
Ah oui, la châtaigne en Ardèche, c'est le châtaignier, on ne fait aucun traitement chimique. Et même dans le cahier des charges de l'AOP, on a interdit la fertilisation chimique. On le conduit de façon naturelle, comme l'ont fait des générations de producteurs avant nous.
Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, en tant que producteur, cette AOP ?
Nous, ça nous apporte une garantie que tous les produits qui sont consommés sont bien des fruits de l'Ardèche. Parce qu'avant, on vendait plus de châtaignes d'Ardèche qu'on en produisait. La dénomination Ardèche est très porteuse et on avait tendance à mettre sur l'étiquetage d'un produit des fruits d'autres provenances. Donc c'est une garantie pour nous, producteurs, que les consommateurs qui veulent soutenir la filière châtaigne d'Ardèche AOP puissent le faire et apporter de cette façon un avenir à notre châtaigne ardéchoise. Ces dernières années, on observe des dérèglements climatiques. On a des chaleurs estivales de plus en plus fortes et de moins en moins d'eau au moment où la châtaigne en a le plus besoin, au mois de septembre, pour son grossissement de fruits. Donc on recherche à décaler un petit peu les arbres, un petit peu, les monter un petit peu en altitude, à changer les variétés. Mais de monter en altitude, ça ne résout pas tout, puisque on peut avoir des dérèglements climatiques, des neiges très précoces au mois d'octobre, fin octobre, et également des gelées qui peuvent pénaliser la récolte et la conservation des fruits.
Le réchauffement climatique a bien entendu un impact sur la châtaigne d'Ardèche AOP. Même si l'Ardèche n'est pas la seule région française évidemment à en produire, on a également la Corse où l'on fait bien entendu une farine de châtaigne AOP. Il y a également la ville de Colobrières dans le Var, oui, qui est connue pour sa châtaigne depuis le XIIe siècle. La châtaigne est un peu partout en France, mais il est vrai que l'Ardèche redevient très dynamique en matière de production de châtaigne.
Oui, d'abord on a eu l'AOC et l'AOP ensuite, mm-hmm, et puis on est quand même en volume, on produit 50% de la production française en mm-hmm gros. Et puis on a un gros tissu, à peu près 1000 castanéiculteurs. Et dans une grande partie qui transforme même leurs fruits. Et on a aussi 2-3 moulins qui se sont installés, qui font les farines à façon. Et ce qui a permis aussi de valoriser énormément la châtaigne.
Il reste encore des entreprises locales qui transforment la châtaigne, oui, en crème de marron. Vous nous avez fait le bonheur d'un petit cadeau. Ce sont les marrons glacés ou châtaignes glacées de la maison, bien connue.
Humbert.
Humbert, voilà. Racontez-nous en un mot.
Alors, une maison ancestrale qui fait des marrons glacés depuis, ça doit être marqué sur la boîte, mais très très longtemps. Mm-hmm. Moi, ils ont ma préférence.
Châtaigne 100% locale.
Alors, pour le marron glacé, on va dire non. Toute celle qui est faite en Ardèche est faite avec un marron qui vient d'Italie. Ça, c'est qui sont soit le marron de Naples, soit le marron de Turin, parce que c'est des fruits qui ont la propriété de prendre le sucre bien meilleur que nous.
Et ensuite, alors, ce qui est paradoxal, pardon, mais c'est que le savoir-faire du confisage des marrons est un savoir-faire bien français,
oui,
et on a besoin désormais de fruits italiens pour pratiquer ce savoir-faire de confiserie en France.
Ce qui est un comble, c'est que traditionnellement, on exportait la châtaigne d'Ardèche à Lyon pour faire les confits, les marrons glacés, et que maintenant, on fait les marrons glacés chez nous. Alors, que ça soit Sabaton-Humbert, il y a une partie...
Sabaton, vous évoquez une autre maison ardéchoise.
Une autre grande maison ardéchoise d'Aubenas, qui est le nid, on va dire, des faiseurs de marrons glacés, ont une petite partie de la production qui est faite avec du marron d'Ardèche. Mmh. Leurs confitures sont principalement faites avec de la châtaigne d'Ardèche, le plus possible, mais il faut savoir que ce sont de gros fabricants quand même, et ils achètent quasiment tous les palox de châtaigne, toutes celles qui ne sont pas bonnes. Justement, on utilise les plus petites, toutes ces variétés qui ne sont pas très grosses, pour faire la confiture. Parce que les grosses, elles sont valorisées généralement en marron grillé ou en la vente en direct.
Revenons aux fruits frais, car nous sommes en train de nous régaler à l'heure de l'apéro avec ce qui ressemble tout simplement à des chips, des espèces de pétales,
oui, oui,
blonds, mais absolument addictifs. C'est là où on se rend compte à quel point la châtaigne contient du sucre. Oui. Ce sont des chips de châtaigne fraîche.
Oui, alors c'est pas difficile. Hein. Une mandoline qui taille vraiment bien.
Voilà.
Un médecin à proximité pour les doigts.
Sur la mienne, il y a marqué « Regardez vos doigts » sur ma mandoline. Et on fait des tranches très très fines, la frite à 180 degrés, on les plonge par petits paquets, dès que les chips sont descendus au fond, on les sort. Alors le secret, c'est papier sopalin une première fois, voilà, papier sopalin une deuxième fois, et nous, quand on veut les conserver, on les étale sur du papier sopalin et on les met dans le déshydrateur.
Le secret, c'est de ne pas laisser s'oxyder le gras résiduel. Voilà, donc il faut dégraisser le plus possible.
Le plus possible.
Je viens d'en tremper une dans la sauce barbecue de Ranois Logresse.
Très bonne idée.
Ah, mais c'est dantesque.
Ouais, c'est très bon. Absolument prodigieux. Il y a pas mal d'auditeurs qui nous demandent d'essayer de définir, c'est vrai que c'est compliqué, le goût de la châtaigne.
C'est d'abord du sucre, hein, quand même.
Douceur.
Ah, bah, ouais. C'est de la rondeur.
C'est la rondeur. 35% de glucides dans une châtaigne fraîche, c'est d'abord un fruit sucré,
oui,
avec pas mal d'amidon également, ce qui lui donne une texture parfois un peu pâteuse.
Oui, c'est ça, parce que c'est pas, pardon, mais pour moi, plus que le sucre, c'est l'amidon quand même.
Oui.
En termes de texture, voilà, certes, c'est
la texture.
Mais quand vous goûtez une crème de marron, là, vous vous rendez vraiment compte qu'on a affaire à un fruit frais.
Alors, c'est difficile de définir. On peut dire que ça ressemble à du potimarron, de la patate douce, mais en fait.
Ou c'est plutôt la patate douce ou le potimarron qui ressemble à la châtaigne.
Le fruit frais a quand même ce goût d'amande un peu.
Mmh, tout à fait.
Et puis on a un petit peu ces côtés un peu tanniques,
oui,
cette amertume,
oui,
qu'on a quand on garde un peu de peau. Moi j'aime beaucoup ce côté.
Il y a beaucoup d'arômes dans la châtaigne crue,
oui.
Il y a des arômes très très délicats qui s'en vont très vite,
oui,
qu'on ne goûte que quand on la mange crue d'ailleurs.
Et même des goûts assez laiteux aussi, lactés.
Oui, oui, absolument.
Mmh. Oui, des fois on dit un peu pain au lait, des
oui,
fois.
Exactement.
Pain au lait, et ben voilà, on est bien d'accord. La châtaigne, fruit rustique et aussi assez résistant, même si on va voir justement que ce fruit en Ardèche et ailleurs est parfois victime de maladies. On retrouve justement Michel Grange qui nous raconte les différentes pathologies qui peuvent toucher ce fruit emblématique.
Dans ce secteur, il y a moins de vieux châtaigniers parce qu'ils ont été contaminés par une maladie du système racinaire qui s'appelle l'encre. Donc on les a remplacés donc, par des jeunes arbres qui, dans la typicité quand même de résister à cette maladie, c'est une hybridation entre le châtaignier européen et le châtaignier japonais qui lui est résistant.
Et quelle autre maladie affecte ces arbres ?
On a le cynips, c'est un insecte qui est parti de Chine, qui est arrivé en Italie et qui contamine toute l'Europe. Donc cet insecte a fait de
nombreuses... C'est une petite guêpe, hein ?
Oui, c'est une petite guêpe qui pond ses œufs dans les bourgeons. Et la larve reste au mois de juin, et la larve reste à l'intérieur pendant tout l'hiver, au printemps. Donc le bourgeon n'éclate plus, donc il n'y a pas de feuillaison, il n'y a pas de floraison, et une perte de production conséquente qui peut aller jusqu'à 50%.
C'est un bon exemple du coup d'un des parasites qu'il y a sur le châtaignier, qui est le Carpocaps, qui va manger l'intérieur de la châtaigne. Et va...
Oui, c'est un petit ver blanc qui fait quoi, 2-3 mm de long?
Oui, à peine plus.
Ouais, et qui était à l'intérieur de la châtaigne.
Ouais, c'est ça, qui est à l'intérieur de la châtaigne et qu'on on voit ensuite un trou au niveau de la châtaigne, dessous. Et ça, si vous le mettez dans l'eau, ça va flotter. Et nous, c'est ce qui nous permet aussi de trier les châtaignes qui sont véreuses, comme ça, par flottaison. Donc on les trempe dans l'eau et les mauvaises vont remonter à la surface et on va les évacuer.
Les maladies qui touchent la châtaigne et qui ont d'ailleurs fait des ravages à la fin du 19e siècle en Ardèche.
Oui, avec l'apparition de l'encre en 1870 en Ardèche en tout cas.
C'est ça.
Qui est une maladie, là on a un dépérissement complet de l'arbre.
Toutefois, on peut se réjouir quand même du fait que les méthodes de culture se tournent vers l'agriculture biologique dans bon nombre de vergers en Ardèche.
Mais en fait, c'est un arbre qui nécessite pas il n'y a pas besoin de faire autrement.
Il est bio par essence.
Il est bio, voilà. Ce qui est intéressant, c'est comme chez Michel ou comme chez David, on a souvent du pâturage dessous, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de fumer en fait.
Ben,
et ça entretient.
Il y en a un qui cherche la castagne sur le plateau dont on va déguster le coup de lame d'Arnaud Daguin.
France Inter. On va déguster.
Ah, la châtaigne. Chez moi, dans le Gers, on dit la castagne. Et je peux vous dire que j'en connais un rayon sur le sujet, comme tous les cuistots de ma génération d'ailleurs. Je m'en suis mangé quelques-unes des châtaignes quand j'étais marmiton. J'en ai pris des marrons et des gratinés, croyez-moi. Le marron chaud du chef Sanguin et Gueulard. Vous savez, celui qui, pendant le coup de feu, devient plus bouillant que ses gamelles et qui te les balance à la tronche quand t'as cramé l'omelette. J'ai aussi dégusté le marron glacé du chef de parti hautain et méprisant. Lui, son truc, c'est la colère froide, la remarque glaciale, l'humiliation réfrigérante. Et je l'avoue, jeune chef à mon tour, j'ai moi aussi cédé à la tentation de la châtaigne. Verbale, la châtaigne, uniquement verbale, c'est comme ça qu'elle est le plus amère. Je la mettais à toutes les sauces. C'est tellement plus facile d'évacuer sa peur ou de planquer ses défaites en castagnant les autres. Je n'hésitais pas à servir du râpe de marron aux filles, que je prenais hélas pour des dindes. Ah, je n'étais pas une crème. J'ai changé. Pour éviter de prendre des marrons, mais surtout d'en donner, j'ai choisi de travailler seul en cuisine, pour ne me castagner qu'avec moi-même. Ça n'a pas suffi à évacuer le problème. Sous la plume des critiques gastronomiques, la châtaigne est toujours de saison. Louange qui propulse le cuistot dans les étoiles, châtaigne qui l'en fait choir. Chute qui peut briser les ailes de l'oiseau. Je pense à ce pauvre Bernard, qui n'arrivant pas à digérer ses châtaignes, s'est collé un pruneau. Il y a aussi les marrons pourris, ceux qui infestent les réseaux, prolifèrent sur le terreau puant de la rumeur et lapide le cuisinier. Je pense là à Takusekin, qui n'y a pas survécu. Je pense aussi aux show cuisiness. Vous savez, ces filles et ces gars qui, maintenant que la cuisine est un spectacle, accourent devant les caméras pour se prendre des marrons en public. Marrons vanillés, édulcorés, certes, mais toujours durs à avaler, et administrés par des chefs célèbres qui, n'en doutons pas, en furent aussi gavés dans leur jeunesse. Mes amis, le temps sont venus de virer la châtaigne du menu. Tant pis pour le Mont Blanc, tant mieux pour les cuistots, et tant mieux pour les cuistotes. La blague salace ou la même baladeuse, ce n'est pas plus admissible que le coup de pied au cul ou la bourrade d'épaule soi-disant virile. Et au passage, je pense à Camille, qui sur son site Jeudi Non Chef a récolté une sacrée provision de marrons ramassée par ses sœurs de fourneau. Et pourtant, les amis, la cuisine, ce n'est pas la castagne, c'est exactement le contraire. La cuisine, c'est le partage, la transmission, la générosité, c'est la joie, enfin, ça devrait. Ce n'est pas bien compliqué de comprendre qu'en cuisine comme ailleurs, c'est quand il n'y a plus de châtaigne qu'ensemble,
nous nous marrons.
Merci beaucoup, Arnaud Daguin. Claude Brioude, une petite réaction sur la chronique d'Arnaud Daguin. La châtaigne, j'espère que vous ne la pratiquez que dans la casserole.
Oui, que dans la casserole. Je suis issu quand même, avant d'être des chefs, c'était des chefs avec deux FE. Et il y avait quand même, je pense souvent à ma grand-mère, il y avait quand même il y avait un vrai respect des gens. Et c'est quelque chose qui moi, enfin, j'arrive pas à, de toute façon, je vais pas mentir. Il faut que je puisse entendre la radio quand on fait le service.
Oui, et France Inter notamment.
Bah, que France Inter.
Très, très bien. Il est, vous savez qu'il est perfusé à France Inter.
C'est vrai. On est nombreux dans ce cas.
C'est vrai que, en plus, moi, je le dis tout le temps, si le chef a besoin de crier, c'est parce qu'il a fait une erreur.
Le chef qui crie a déjà perdu. En voilà une bonne morale. On finit en douceur cette émission avec une recette qui a l'avantage d'utiliser, attention, un élément qu'on a un tout petit peu moins évoqué, qui est la farine de châtaigne, qui permet notamment de conserver ce fruit tout au long de l'année. Vous nous avez préparé des madeleines.
Oui, des madeleines 100% châtaigne.
Non.
Et si. Ouais.
Mais attendez, comment elles peuvent lever?
Il y a un tout petit peu de bicarbonate, mais il n'y en a pas besoin beaucoup, en fait. Parce que quand j'en ai pas, j'en ai pas. Farine de châtaigne, ce qu'on fait, c'est du beurre, du sucre, on crème le mélange, on incorpore ses œufs, et puis au dernier moment, on met sa farine de châtaigne juste tamisée, on fait refroidir la pâte à madeleine, et après on la met dans les petits moules, on fait cuire 180 degrés, alors là, celles-ci sont petites, 7 minutes. Alors je triche toujours un peu, parce que ce que je fais, c'est que j'y rajoute toujours un petit peu de crème de marron au milieu, pour donner ce petit côté
moelleux. Ça nuit pas.
Non,
ça nuit pas.
J'allais dire, ça peut pas perdre.
Non, non mais parce chouette. Que la farine de châtaigne, à la différence des autres farines, a tendance à donner quelque chose d'un peu plus sec.
Mm-hmm. Entièrement d'accord.
Donc du coup, avec la crème de marron ou la confiture de myrtille,
vous le compensez.
Ouais. On le compense.
Oui, et ces madeleines à la farine de châtaigne accompagneraient bien
le flan.
Ce flan à la châtaigne, en un mot.
Oh, super simple. Du lait, de la crème de marron, on mélange, des œufs fouettés, on verse dessus. Alors j'ai fait un petit. Ben Marie, j'ai fait un petit caramel. Alors je vais faire des amis, mais avec un whisky très tourbé, pour une raison très simple, c'est que pour moi, la châtaigne, il y a toujours ce côté un peu fumé. Voilà, on déglace le caramel avec le whisky, on le met au fond, un petit peu d'eau pour essayer qu'il soit liquide, et puis on fait cuire. Alors ça, mais lentement, c'est un peu le truc, c'est long, parce que j'aime bien quand elle fait pas la peau, donc on a presque comme une crème brûlée.
Merci beaucoup Claude Brioude. De nombreuses autres recettes à retrouver dans votre livre Châtaigne, la reine non couronnée de la cuisine. Non couronnée, c'est important,
oui.
Car on parle d'un fruit du pauvre en fait. Hein. On n'est pas dans un fruit précieux, on est presque à l'autre bout du spectre de la truffe noire.
Oui, moi j'avais un grand-père qui disait toujours les châtaignes c'est pour les cochons.
C'est ça, aux éditions Sud-Ouest, c'est pour les cochons, mais aussi pour les gastronomes, un grand merci. Et puis pour retrouver également vos prouesses à base de châtaigne, il y a vos restaurants. Vous nous en rappelez les références, donc Cuisine Brioude.
Oui, Cuisine Claude Brioude et Bistrot Brioude, ça fait beaucoup de Brioude, mais c'est la tradition familiale, Anérac-les-Bains en Ardèche.
En Ardèche, évidemment, et votre livre date de 2012, mais on le trouve encore partout et dans les librairies.
Ah, je sais pas, c'est en tout cas chez moi.
D'accord.
Faut venir manger.
Voilà. La semaine prochaine, on se passionne pour un autre fruit d'automne, la grenade. On explore ce fruit avec le producteur bio Jean-Claude Perretto et la grande gastronome libanaise Noah Baz. Merci Jérôme Gagnès, merci Arnaud Daguin. À bientôt les amis.
Avec plaisir.
Merci Claude, bon retour en Ardèche.
Oui, merci beaucoup.
À dimanche prochain, si vous avez encore faim.